Les podcasts de la SRF.
Bonjour, merci à toutes et à tous d'être avec nous et bienvenue dans le quatrième épisode de notre série en six parties, l'écologie et la pratique du cinéma. Nous allons aujourd'hui aborder non pas tant la fabrication d'un film, ici donc un documentaire et une fiction, que leur contenu, les récits écosensibles. Bonjour Dominique Marchais, vous êtes cinéaste, vous avez réalisé 4 longs métrages documentaires, Le Temps des Grâces, La Ligne de Partage des Eaux, Nul Homme n'est une île, et récemment La Rivière qui a reçu le prix Jean Vigo 2023.
Bonjour.
Bonjour Thomas Salvador, vous êtes également cinéaste, vous avez réalisé de nombreux courts-métrages, on se souvient notamment de 2 sorties, et 2 longs-métrages, Vincent n'a pas d'écailles et La Montagne, présentés à la quinzaine des cinéastes en 2022.
Bonjour.
Dominique, en quoi votre conscience écologique et votre profession sont-elles liées ?
En quoi c'est lié ? Je dirais que c'est les films qui m'ont rendu écologiste, tout particulièrement le premier, Le Temps des Grâces, qui est un film sur l'agriculture. Je voulais travailler sur l'agriculture et j'avais pas spécialement de culture écologique à ce moment-là. Je dirais ni du côté science de l'écologie, science de l'environnement, ni du côté écologie politique. Moi, ce qui me troublait particulièrement quand j'ai commencé à travailler sur ce film, c'était des questions paysagères, des transformations, des mutations paysagères à l'œuvre dans l'espace rural. Donc, comment l'agriculture transformait les paysages contemporains, et aussi des questions sociales et économiques sur la disparition du monde agricole, enfin, disons, la diminution des actifs et le retrait, comme on pourrait parler aujourd'hui des retraits des glaciers, voilà, bah, le retrait du monde agricole de la société française. C'était ça que je voulais observer. Et en faisant ce film, c'était un long travail de documentation, d'enquête. J'ai rencontré beaucoup de gens et c'est ce film qui m'a rendu écologiste. J'ai appris énormément de choses, notamment avec les agriculteurs, y compris avec des agriculteurs classiques, dans un système plutôt agro-industriel, qui m'ont rendu très sensible à des questions de biodiversité, de pollution des eaux, d'érosion de la matière organique, etc. En fait, ils savent tout ça, et le savent depuis longtemps. Je pensais ne faire qu'un long métrage documentaire. À ce moment-là, j'avais fait un court métrage de fiction. Pour moi, c'était une parenthèse. Mais en fait, ça a ouvert un tel champ, et ouvert telle curiosité, quoi. Elle m'a donné aussi un tel appétit de rencontre et de savoir que c'est un travail dans lequel je suis toujours pris. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir vers la fiction, mais les questions environnementales, maintenant, sont complètement consubstantielles à mon écriture, quel que soit le projet, quoi, qu'il soit de fiction ou documentaire. En fait, il n'y a que ça qui m'intéresse.
Et vous, Thomas ?
Ben moi, je dirais que j'ai toujours considéré le cinéma comme faisant partie de la vie. Et c'est une réponse simple, mais et comme je me considère comme écologiste depuis longtemps, sans que j'ai eu trop à le réfléchir ou à le théoriser, j'ai fait des films, et dès mon premier court-métrage, qui questionnait un petit peu le rapport de l'urbain aussi dans... De la nature, même dans mon deuxième court-métrage. Donc, ça a été présent de manière hyper naturelle, sans que j'y pense, sans même jamais que je me sois formulé de faire des films écolos. Alors, si sur la montagne, bien, j'en avais parfaitement conscience, mais sur Vincent n'a pas d'écailles, moi, je l'ai vraiment écrit comme un film d'action, d'aventure, un peu contemplatif. Et puis, il y a des gens qui ont écrit sur le rapport à l'eau. D'ailleurs, ça pourrait être le sous-titre « La rivière » de Vincent n'a pas d'écailles, comment, par le biais du corps et de la fiction du personnage, comment il explore aussi un territoire. Et c'est vrai que quelqu'un avait écrit sur l'eau sous toutes ses formes. Elle est chlorée, elle est salée, elle est polluée. Parce qu'à un moment, il y a un plan où il est dans les égouts. Il y a dans un lac, il y a... Voilà, moi ça vient parce que je suis un peu constitué comme ça, mais...
On va revenir après sur le thème de l'eau, mais à partir de quand votre travail en tant que thématique, l'eau, la montagne, etc., devient aussi une réflexion sur la fabrication même des films, si elle le devient, à partir de quand vous vous posez la question de l'écologie dans la fabrication du film ?
Je pense que la question, elle se pose pour aider un tournage dans une, j'ai envie de dire, dans un régime de production en fiction, quoi. Moi, mes films, c'est 4 personnes et tout tient dans le coffre de la voiture. Donc, on peut pas faire moins. Ce format de production-là, il a pas évolué. C'est le même. Enfin, le Temps des Grâces, on l'a fait à 3. La Rivière, on l'a fait à 4. Et Nul homme n'est uni à 5 parce qu'il y avait aussi des questions de traduction, etc. Mais en gros, voilà, on tient dans une voiture, quoi.
On retrouve dans le cinéma, de toute façon, quelque part aussi une forme de hiérarchie des classes, qui est que de toute façon, le cinéma pauvre, de la même façon que les citoyens pauvres, pollue immensément moins que un cinéma riche, voire très riche.
Ouais, alors après,
qui sera celui qui devra le plus se remettre en question.
Après, on peut décider aussi d'être pauvre ou en tout cas d'être sobre. Le retour à la fiction, pour moi, ce sera pas avec des groupes électrogènes et des camions régis. C'est sûr. Les référents, ça va être par exemple Eric Rohmer, où finalement son matériel de lumière, il tient dans une boîte à chaussures. On le voyait dans le film de Labarthe, il dit voilà, boîte à chaussures, c'est merveilleux, c'est la taille parfaite pour ranger les cassettes mini DV. Et en plus, si on retourne le couvercle et qu'on met du papier alu au fond, et ben ça fait un super déflecteur. Donc c'est la question de la lumière naturelle en fait. Et dans le cinéma documentaire, en tout cas tel que je le pratique, effectivement, on ne travaille qu'avec la lumière naturelle. Donc le matériel des directeurs de la photo avec lesquels j'ai travaillé, ça se limite à un drap blanc et à un drap noir pour borgnoler dans la voiture, pour pas avoir de reflets sur le pare-brise ou ce genre de choses.
C'est vrai que tous les cinémas ne s'y prêtent pas, mais j'avais pas repensé effectivement au cinéaste de notre temps de Labarthe avec Rohmer, mais c'est une façon d'envisager l'écologie comme quelque chose de ludique, comme une contrainte potentiellement amusante, en tout cas, qui peut générer de la création, de l'inventivité, qui ne se prête pas forcément à tous les cinémas, à tous les films, mais en tout cas au moins à une partie.
De toute façon, la question en termes de coût écologique, bon, l'éclairage, c'est un poste important. Maintenant, on verra aussi qu'évidemment, la post-production, c'en est un autre qui est de plus en plus important. Si on décide de travailler en lumière naturelle, je pense à Terrence Malick qui travaille avec en lumière naturelle, donc ça veut dire construire deux fois le même décor, orienté est, orienté ouest, pour avoir toujours la possibilité de tourner dans la même lumière, enfin, le matin et le soir. Ce que je veux dire, c'est que ça rentre dans l'écriture. Je pense que chez Rohmer, la question de la lumière naturelle, elle est présente dès la question de l'écriture du scénario, et plus encore au moment des repérages et de l'établissement du plan de travail avec l'équipe. En tout cas, moi, si je suis allé après cette expérience de la fiction, si j'ai eu l'envie de l'expérience documentaire, à ce moment-là, je vivais comme ça. Je me dis, je veux faire cette expérience-là d'un tournage à 4 personnes, très léger, et d'avoir du temps. Enfin, c'était pour ça. C'était pour avoir pour retrouver le temps, la possibilité de douter, de faire des expériences, de pas avoir un plan de travail complètement verrouillé, d'avoir le droit au repentir et de me donner les moyens d'écrire tout le temps, y compris pendant le tournage. Voilà, donc on parlait d'Herzog tout à l'heure. Herzog, Rohmer, ce sont des cinéastes tout à fait typiques qui ont une pratique documentaire et fiction, qui ont autant de plaisir à faire l'un et l'autre, mais de fait, ils font leurs films presque de la même manière.
On peut noter d'ailleurs chez Rohmer qu'il y a souvent dans le titre quasiment une direction de lumière, que ce soit L'amour l'après-midi, Ma nuit chez Maud, ou les contes des saisons, et évidemment Le rayon vert,
c'est vrai,
qui sont déjà des indications de lumière. Et possiblement, dans les contes des quatre saisons, d'ailleurs, une façon de s'auto-contraindre et en se contraignant, du coup, d'être attentif aux lumières, aux feuilles, aux arbres de la saison en question.
Ouais.
Et vous, Thomas, donc La Montagne n'est pas un film au budget pharaonique, mais c'est un film d'auteur de fiction produit, donc qui est déjà 10 fois ou 100 fois plus gros qu'un tournage comme La Rivière. À partir de quand et comment est-ce que vous envisagez du coup la fabrication du film en termes écologiques?
Moi, je dirais qu'il y a, je parlerai de nécessité. Et c'est-à-dire que je trouve que c'est toujours bon signe quand... en fait, je reviens en arrière, on ne devrait presque pas y penser à l'écologie. Ça devrait se faire un peu naturellement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, il se trouve que mes films... ont une dimension écologiste dans leurs propos, dans leurs récits. moi, par exemple, pour faire ce film, La Montagne, ça avait aucun sens d'amener 30 personnes sur un glacier en hélico. Surtout des gens qui n'ont rien à faire un peu du nom des montagnes. Moi, j'adore montrer les noms des glaciers, les montagnes, les voies que j'ai faites adolescent. Et donc déjà, inconsciemment, d'amener peu de monde dans ces décors que j'aime, c'était une manière de garder quelque chose d'intime, de coller aussi à ce que raconte le film, parce que on a beau être dans des tournages spectaculaires, c'est un récit très intime. Et puis surtout la question du temps, c'est-à-dire que nous, on avait 2 millions et quelques, donc ce qui est sans doute beaucoup plus que pour La Rivière, mais ce qui n'est pas beaucoup pour un film en haute montagne fantastique. Et on a pu tourner 50 jours, parce que, alors nous, il nous fallait deux voitures, pas une. Mais on a évidemment tout ce qui est en extérieur, il y a zéro éclairage, comme dans Vincent n'a pas d'écailles. Et les séquences de nuit où il y a un peu d'éclairage, on a été peut-être 10 maximum sur le plateau. Et sinon, le gros du film, on était entre 5 et 6 sur le plateau. Pas de script, pas d'accessoiriste. Tout le monde s'occupait de pas mal de choses. Pas de perchman, il n'y en a pas eu un ou de perchman de tout le film. Et chacun portait un peu de matériel. Et on avait un ou deux porteurs selon. Et il y a aussi presque 2 semaines et demie, on n'était que 2 techniciens. Et donc, il y avait l'assistant caméra, Victor Pichon, qui était l'autre alpiniste avec moi de l'équipe, qui est devenu chef-op parce qu'il y avait toute une partie où il fallait quand même être quand même alpiniste quoi, pour pouvoir aller grimper les 400 mètres avant d'être dans le décor. Et donc, moi, je faisais le son aussi. Et puis, il y avait un ou deux guides de haute montagne pour nous sécuriser selon la dangerosité du décor. Et moi, j'adore ça, quoi. C'est-à-dire que... Et aussi, vu qu'on a eu la pire météo depuis 20 ans, on a fait très peu de repérages. Je pense qu'il y a plus de la moitié des décors, on ne les a pas repérés dans le film. C'est-à-dire que vraiment, on savait que c'était sur cette paroi qu'on tournait. C'est la paroi du film, l'aiguille du peigne. Et donc, on avait un peu dans la poche les séquences et les plans qu'on devait ramener. Puis vraiment, c'était du repérage-tournage. Alors, c'est un peu flippant, mais moi, j'adore faire ça. Et surtout, je trouve ça... Je fais une petite parenthèse. Au début du film, j'étais très flippé de me dire « mais j'ai pas d'inspiration, je vois pas les plans » comme j'ai pu faire dans mes courts-métrages ou dans « Vincent n'a pas d'écailles » où chaque séquence écrite induisait presque un découpage. Et puis ça faisait un moment que j'avais pas tourné. Et en fait, en faisant le film, j'ai réalisé que je voulais me mettre un peu comme le personnage, c'est-à-dire qu'en disponibilité, à redécouvrir ces décors que je connaissais et à vivre au gré de la météo, des nuages, de la neige. Et donc, c'était tout à fait, ça me semblait cohérent, voilà, d'être très peu nombreux pour être très réactif et pouvoir vivre au rythme de la montagne. En aucun cas être en conquérant la grosse équipe, le gros matos, on va plaquer notre film dans la montagne. C'est vraiment la montagne qui nous a un petit peu plaqué ses impératifs. Et pas mal de gens de l'équipe qui n'étaient pas montagnards au début s'énervaient un peu parce qu'on a, tous les jours, on tournait que 4 heures, 5 heures. Et au bout de 3 semaines, tout le monde disait « Ah, ben, tu fais un film qui s'appelle La Montagne, il faut accepter de vivre à son rythme et tout ça. » Donc, voilà. Donc, je ne me suis pas dit « Je veux être écolo, qu'on le soit sur ce film », mais on l'a été parce que c'était cohérent avec le projet et mon désir de cette économie-là, c'est-à-dire d'avoir du temps, d'avoir un temps qualitatif avec les gens et de vivre une aventure aussi, puisque je fais aussi des films pour ça. Et je pense que d'être dans l'efficacité, donc d'être hyper nombreux, d'être sur 3 décors en même temps de ça, je pense que ça me rendrait malheureux, au-delà de la dépense énergétique.
Alors ça m'amène à penser 2 choses un petit peu contradictoires. La première qui est, effectivement, dans la joie de tourner avec des petites équipes, il faut quand même aussi entendre du coup le fait que des gens, des techniciens, du coup, des postes ne sont pas engagés. Donc éventuellement ça, sur la durée, ce sera un problème pour des gens qui... ont besoin d'être engagés ou qui sont dans des professions qui peuvent tendre à disparaître. Là, on parlait d'accessoiristes, on parlait de script, etc. Mais c'est vrai qu'il y a la question des emplois, qui est une vraie question de transition au moment de l'écologie. En tout cas, ça me rappelle un extrait du film précédent de Dominique, Nul homme n'est une île, dans laquelle on voit ce menuisier parler du fait qu'il a décidé que son entreprise ne grossirait pas plus que ce qu'elle est depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire une dizaine d'employés, quelque chose qui tourne, qui roule, qui fonctionne, qui rapporte de l'argent et qui pourrait tout à fait grandir, mais qu'il a décidé, un peu comme ce que vous disiez, Thomas, d'être à cet endroit-là et d'y rester pour des raisons, notamment éventuellement de questionnement par rapport au libéralisme, au capitalisme fou, mais aussi, pourquoi pas, d'écologie. Est-ce que vous, en tant que cinéaste, vous pensez que l'ampleur de vos films, la dimension budgétaire, technologique et éventuellement même d'endroits, de sorties de vos films est quelque chose qui vous va et que vous pourriez décider comme quelque chose qui est votre endroit, qui n'a pas vocation forcément à grandir, grossir ou quoi?
Ça me semble très, très juste de prendre cet exemple-là de Marcus Feist. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de filmer des gens qui font complètement autre chose, de l'agriculture ou des meubles, pour qu'ils nous aident à penser notre propre place dans le monde. Et je rejoins complètement aussi Thomas quand il dit « le cinéma, ça fait partie de la vie ». Oui, et en fait, on essaie, je pense, de faire un cinéma qui montre la vie. C'est aussi pour ça que ça parle d'écologie, c'est que on est pris dans ces questions-là et c'est normal que les films les prennent. Moi, ce qui m'étonne, c'est que il y a si peu de films qui parlent réellement du monde dans lequel on vit. Je me souviens de Jean-Claude Biette qui parlait de certains films en disant « c'est du cinéma filmé ». C'est quand même beaucoup ça aujourd'hui, le cinéma. C'est une espèce de copie, de copie, de copie. Et on est quelque chose qui s'éloigne du monde, de nos réalités, de nos affects, etc. Et quand je dis ça, des films de genre qui se passent dans l'espace, genre Gravity, peuvent être très proches de nos affects contemporains. C'est d'essayer d'être au plus près de nos vies, de nos affects et de nos problèmes, quoi. Alors après, voilà, il y a la question de la cohérence, de trouver sa place et de s'y tenir. Ça, c'est ce qu'a fait Marcus, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais en fait, c'est quand même toujours quelque chose qu'on essaie de faire. Parce que même sa place, si on l'a trouvée à un moment donné, le monde, il continue à bouger. Donc, on sait qu'il faut ramer pour garder cette place. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'à chaque film, il faut travailler deux fois plus pour faire autant d'entrées, par exemple. Ou travailler deux fois plus pour avoir deux fois moins d'argent, par exemple. Donc, en fait, c'est vachement dur de la garder, cette place, une fois qu'on l'a trouvée. Il y a tout un aspect, quoi, du travail accompli sur ces quatre films avec lequel je me sens bien et que j'essaie de protéger et de préserver. Mais il faut aussi que je l'adapte à un monde qui change. Et j'aimerais bien avoir plus de moyens pour les faire, ces films-là. Je n'aspire pas à faire des films chers ou avec des grosses équipes, mais ça ne veut pas dire que je n'aspire pas à ce que mon travail se développe dans le sens de sa diffusion.
Et vous, Thomas, dans la mesure où l'adéquation entre la façon de faire le film et le sujet du film est de toute façon quelque chose qui est ancré non seulement en vous comme cinéaste, mais même comme personne, on peut imaginer que vous allez continuer en termes de sujet ces thématiques qui vous sont chères. Et du coup, on arrive à la question du récit. Est-ce que vous pensez effectivement, comme Dominique, qu'il est surprenant que peu de films s'emparent de la réalité, notamment écologique, mais y a-t-il une nécessité à ce que les récits se multiplient?
Tout ce qui peut contribuer à ce que les choses, voilà, je vais dire une banalité, hein, évoluent, mais déjà dans un premier lieu, soient entendues et soient conscientes. C'est-à-dire que moi, je trouve que le cinéma, ou comme la littérature ou la musique, mais le cinéma, parce que c'est un art dans lequel l'empathie et l'identification permet justement de donner au spectateur du... Pas forcément du... Alors, du grain à moudre, peut-être dans les films de Dominique, on voit leurs expériences. Et moi, dans mes fictions, on voit des expériences de ce personnage qui pourrait être un peu... comment on dit, c'est décroissanciste, le personnage de Pierre dans la montagne. En tout cas, qui se pose ces questions, mais pas du tout de manière rebelle, pas de manière violente. Il en éprouve le besoin, il éprouve le besoin de vivre cette expérience. Donc, je pense que les spectateurs, de voir un récit comme ça d'un personnage qui a une vraie trajectoire, qui part voilà de son appart un peu froid en banlieue parisienne à une forme de dépouillement, même s'il a un peu de l'argent, donc il a de la chance, il peut quand même acheter du bon matériel, des bons piolets, des bons crampons et une bonne tente. Donc c'est pas donné non plus à tout le monde de faire cette expérience. C'est peut-être du soft power. Voilà, il faut Extinction Rébellion, il faut des documentaires qui rentrent dans la technique, dans le vif du sujet, pour que ça change un peu. Donc moi, je pars du principe que si un personnage change dans un film, et même si y a plein de gens qui ont aimé La Montagne sans se dire « Ah, c'est un film écolo, ça fait prendre conscience du réchauffement et de la fonte des glaciers », parce que c'est dans le film, mais c'est pas dans le film en tant que mise en garde, c'est dans le film parce qu'il se trouve que moi, le personnage que j'incarne traverse ça. Voilà, ça peut contribuer, quoi, mais de manière incarnée. Et je pense que dans le, on va dire, le petit succès qu'a eu le film, il y a sans doute aussi de cette dimension de gens qui ont été touchés et qui ont été surpris d'être touchés, parce qu'ils n'allaient pas voir ça, c'est pas au cœur du film, mais c'est quand même très présent.
Sur la question du soft power, Jonathan Choupac a rencontré Benoît Volney, qui est le co-réalisateur du film Avant l'effondrement, avec Alice Zeniter, et on entend une petite partie de ses propos.
Je pense que le cinéma, il a une place très importante, dans le sens où on est déterminé par ce qu'on voit, ce qu'on entend, par les récits dont on s'abreuve, et que notre vie, elle est tissée de récits. Donc je pense que le cinéma, c'est un soft power très puissant. Le soft power, c'est un mot qui est connoté un peu péjorativement, négativement. Pour moi, c'est pas une question de savoir si c'est bien ou pas bien. De fait, le cinéma est un soft power. Et je pense que à cet égard, il y a une grande responsabilité politique et éthique quand on fait du cinéma, quand on décide de raconter cette histoire plutôt qu'une autre et de le filmer de cette manière-là plutôt qu'une autre. Alors, en ce qui concerne l'écologie, je pense que c'est important, c'est fondamental de créer des nouveaux récits, mais aussi de vraiment se questionner en profondeur sur la manière dont on filme les choses. Et je crois que c'est Serge Danet qui disait que désormais le cinéma, il est majoritairement, il disait ça dans les années 80, déjà, il est majoritairement gangréné par la publicité, par l'imagerie publicitaire. Dans le sens où désormais, on n'arrête pas de vendre ce qu'on filme, par la manière dont on filme. Alors ça, par exemple, je pense que c'est dramatique, parce que ça véhicule un imaginaire où tout est objet, tout est à vendre, à consommer, à prendre et acheter. Donc, rendre par le cinéma, par la mise en scène, par le point de vue, sa dignité et son importance à ce qui vit autour de nous, les animaux, les plantes, qui sont en train de crever à cause de l'activité humaine, ça me semble fondamental.
Dans vos deux films, Dominique et Thomas, évidemment, les deux films sont très marquants, mais à chaque fois, une scène dans chacun m'a particulièrement marqué. Thomas, vous parliez effectivement des glaciers. Au début du film, on voit votre personnage descendre dans ce qui était la mer de glace. On vous voit devant le point de vue, qui devait être un point de vue devant un océan de glace, dans lequel on voit avant tout une sorte de canyon vide dans lequel vous descendez. Et en descendant, on remarque à côté des marches de l'escalier tous les marqueurs du glacier d'année en année. Et évidemment, chaque année, et encore plus chaque décennie, montre la disparition de plus en plus spectaculaire du glacier. Un peu plus tard dans le film, votre personnage est avec une infirmière qui lui explique l'importance de la glace dans les montagnes. On écoute l'extrait.
Vous étiez dans l'effondrement, c'est ça ?
Pas vraiment, mais j'étais pas loin, ouais.
Vous savez pourquoi ça tombe ?
Pas exactement.
La montagne, c'est pas un bloc. C'est un genre de millefeuille avec des couches de rochers les unes sur les autres qui tiennent grâce à la glace. Un peu comme une colle ou un ciment, vous voyez. Et le problème, c'est la chaleur. Quand la glace fond, les rochers tombent et la montagne s'effondre. Voilà.
Vous connaissez bien la montagne, j'ai l'impression.
Oui.
Et...
Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Non, rien.
Et vous, Thomas, avant de réaliser le film, est-ce que c'est des choses que vous saviez et que vous vouliez dire, ou est-ce que c'est des choses que vous avez découvertes en travaillant sur le film ?
Ah non, c'est des choses que je connaissais bien, malheureusement. Parce que j'ai une passion pour la montagne, même si je pratique plus l'alpinisme depuis plus de 20 ans, et que je m'y suis remis pour le film. Donc je sais ce qui s'y passe, puis j'ai toujours des amis guides d'autres montagnes, alpinistes. Et puis j'ai ce projet de film de montagne depuis plus de 20 ans. Et quand j'ai décidé de le faire, que c'était le bon moment pour le faire, je sentais que la montagne ne pouvait pas être qu'un décor. Les effondrements, parce que tout le monde connaît à peu près maintenant que les glaciers fondent, c'est normal, mais que les effondrements de montagne qui se multiplient dans le monde entier sont liés à ce que vient d'expliquer brillamment l'infirmière du film. C'est même devenu un élément central du récit. Mais en tout cas, il était hors de question pour moi de faire en 2021, quand j'ai tourné un film de montagne dans lequel Voilà, une montagne, ce truc, le décor d'aventure humaine, romantique, passionnée, et que dans l'introspection de ce personnage de Pierre, voilà, qu'elle soit aussi connectée à ce travail de fond qui opère en montagne, quoi. Et que moi, il y a plein de voies d'alpinisme que j'ai faites il y a 30 ans qui se font plus aujourd'hui, parce que c'est... Ou alors ça se fait l'hiver quand il fait hyper froid, parce qu'au moins les rochers sont solidaires entre eux. Voilà, donc pour moi, ça s'est imposé très vite. Et puis, pareil, le personnage va essayer des crampons. Donc, naturellement, il va sur la mer de glace. Et donc, naturellement, il passe devant ces pancartes qui sont effrayantes.
Le personnage, d'ailleurs, s'appelle Pierre. C'est évidemment pas un hasard. Vous faites partie intégrante, organiquement, de la montagne. Est-ce que, par exemple, dans Vincent n'a pas d'écailles, ce qui est intéressant avec ce titre, c'est qu'il n'a pas d'écailles, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il a des écailles. Donc, il est quelque part assimilé à une forme d'animal, en tout cas une créature organique de la biodiversité. Est-ce que le fait que le personnage s'appelle Pierre et devienne une sorte de partie de la montagne, est-ce que Vincent n'a pas d'écailles soit une forme d'homme animal? Est-ce que cette humanisation, finalement, de la biodiversité par votre personnage est une façon de faire passer, vous parliez tout à l'heure d'incarnation, est-ce qu'il est plus facile de faire passer l'urgence, de faire passer le message quand il est incarné par l'humain, ou en tout cas quand c'est l'humain lui-même qui est en danger?
J'ai pas pensé les choses comme ça, mais alors effectivement, pendant l'écriture, le personnage s'appelait Pierre, et puis jusqu'à ce que quelqu'un me dise « mais t'as pas peur que ce soit un peu lourd ?» J'ai dit « quoi ?» Mais il m'a expliqué, et j'ai compris tardivement, donc j'ai changé de prénom. Mais j'ai trouvé aucun bon prénom, et à un moment, je me suis dit, allez, faut que j'aie confiance dans mon instinct. C'est... Peut-être que ça sera un peu ridicule le moment où le personnage féminin, joué par Louise Bourgoin, crie « Pierre, Pierre !» devant une montagne. Mais je prends ce risque. Tout même, je prends toujours les risques du ridicule. Moi, c'est comme on me disait, mais t'as pas peur que quand Vincent va nager comme un dauphin, ce soit un peu ridicule. J'ai dit, bon, on verra bien. En tout cas, moi, j'y crois, j'ai envie d'essayer. Donc dans Vincent n'a pas d'écailles, évidemment la question de l'animalité, elle est hyper présente, mais il en a pas, donc c'est pourquoi la question se pose. Il pourrait en avoir, mais pour moi c'est un être humain, c'est ça qui est important. C'est un être humain qui se trouve avoir ces aptitudes là et ce rapport à l'eau, mais pour moi c'était très clair qu'il ferait rien de plus que ce qu'un homme peut faire, c'est-à-dire qu'il peut pas respirer sous l'eau, il peut pas courir plus vite que la taille de ses jambes et leur élasticité le permettent. C'est-à-dire que moi, on me disait beaucoup pendant le financement, mais pourquoi tu ne fais pas des choses plus spectaculaires? Parce que maintenant, les spectateurs, ils ont l'habitude de voir tout. Et moi, j'avais cette croyance dans le fait que de faire les choses en vrai, dans les décors, dans l'eau, allait apporter ce supplément d'âme et cette très forte empathie qui, d'ailleurs, s'est révélée, qui a fonctionné. Moi, ce qui m'a vraiment touché quand j'ai fait ma tournée de promo du film, c'était... que malgré l'économie narrative du film, le peu de psychologie qu'il y a, voire son absence, que les gens étaient à fond avec le personnage. Et pareil dans la montagne. Donc, dans Vincent n'a pas d'écailles, oui, c'est un homme qui cherche sa place, mais comme dans tous mes films, y compris mes courts-métrages, qui cherche tout simplement sa place dans ce monde, et qu'il a ce rapport très fort à ce qu'on appelle la nature, et qui cherche cet équilibre. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui dit « fuck » à la civilisation et aux autres. On sent qu'il a envie d'avoir des amis, une amoureuse, un travail, mais on sent qu'il a besoin d'être dans l'eau et seul aussi. Et donc, c'est un personnage qui est sur le fil. Et c'est le travail d'une vie qui va sur le fil de cet équilibre-là. Et dans la montagne, le vivant un peu autre, il est minéral, il est un peu volcanique, parce que les petites créatures qu'on a inventées, elles ressemblent à de la lave. Et donc, c'est plus un film sur l'altérité, c'est-à-dire que ça vient pas du personnage, c'est la rencontre. Donc ce personnage, ingénieur, citadin, tout ça, découvre, en redécouvrant une autre forme de vie, qu'on peut appeler primitive, je sais pas en fait, il se rappelle, lui, d'où il vient aussi. C'est-à-dire qu'il ne devient pas autre, juste il se, sans être New Age ni rien, il se reconnecte à quelque chose de vivant, de minéral, qui lui échappe. Donc je tenais à ce que cette autre forme de vie, elle soit aussi un peu neutre moralement, même si elle est plutôt bienveillante, et qu'elle lui permette à lui de faire cette expérience et de partager quelque chose. D'ailleurs, ils échangent un peu de la matière, la substance, elle le contamine un peu, de même que peut-être lui, il va dans leur champ... post-film a peut-être contaminé les autres aussi de manière positive de son expérience, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a traversé. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais...
ces esprits de la montagne, ces petites créatures sont aussi une façon d'humaniser, de donner vie plus tangible, plus visible de la montagne elle-même.
Alors c'est, oui, mais ce n'est pas humaniser, c'est enfin, rendre non. vivant. Voilà,
oui,
c'est
oui,
ça.
Vivant,
c'est
pardon.
Je ne sais pas s'il y a un verbe avec de vivifier, c'est pas vivifier, mais voilà, c'est de montrer le vivant vraiment sous une autre forme et avec une sensibilité et une intelligence. C'est-à-dire que, et puis maintenant, là, j'ai lu ce week-end une étude, on voit que jusqu'à 4 km de profondeur, il y a du vivant. Donc sans oxygène, sans lumière du jour, sans photosynthèse, il y a des bactéries, on découvre, c'est un nouveau champ de recherche. Et il y avait un bel article dans Mediapart sur des découvertes qu'on fait aujourd'hui sur des formes de vivants qui complètement délirantes, quoi.
On peut évidemment aussi penser au règne animal où Thomas Caillet a, lui, humanisé les animaux ou animalisé les humains, plutôt, peut-être aussi sensibiliser à la faune par le biais, finalement, des émotions humaines. Dans La Rivière, évidemment, on garde en tête... ce moment assez bouleversant de cet homme qui traverse en botte la rivière qu'il n'aurait jamais cru traverser sans être dans l'eau jusqu'au cou. C'est une rivière qu'il connaît depuis son enfance, qu'il aurait aimé faire connaître à ses enfants, et qui là est devenue une rivière qui fait quelques centimètres de profondeur. Un peu plus tard dans le film, on rencontre Manon, qui est une technicienne de rivière, et qui parle de barrages et d'hydroélectricité. On écoute l'extrait.
Et on a de moins en moins d'eau, et ça ne va pas aller en améliorant. Malheureusement, l'eau, on l'a d'un coup, donc ça monte d'un coup, et ça redescend tout aussi vite, quoi. Alors qu'avant, c'était vachement plus constant. Ouais, quand tu vois le lobby qu'il y a ici dans la vallée... sur l'hydroélectricité et les piscicultures, ça aussi, ça peut te faire baisser les bras. Tu te bats contre eux, mais tu peux pas te battre contre eux. Tu as tout l'enjeu économique et les emplois qu'il y a derrière, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Mais il n'y a pas de juste équilibre, quoi. C'est tout pour eux et rien pour les autres, quoi. Parce que pareil, on prône l'hydroélectricité, l'électricité verte et tout. Dans 50 ans, il n'y aura plus d'eau dans les rivières. On va turbiner avec quoi? Avec l'air qui passe entre les cailloux? Ça sert à quoi d'équiper les barrages, etc., alors que bientôt, on n'aura plus d'eau dans nos rivières. Enfin, c'est par portion. L'eau, on l'a sur 15 jours dans l'année. Enfin, moi, je vois pas où est l'avenir dans l'hydroélectricité. Il n'y a pas d'avenir dans l'hydroélectricité. Puis, vert, ça bloque la continuité écologique, t'as plus de continuité sédimentaire. Les macro-invertébrés, les poissons, il n'y a plus rien qui circule, quoi. C'est un barrage, quoi. C'est pas naturel. On nous parle tout le temps à la télé, les politiques et tout, d'environnement, qu'on injecte des sous dans l'environnement, etc. Sauf que nous, sur le terrain, on ne le ressent absolument pas, ça. Et souvent, ils ont toujours des raisons X ou Y pour faire mieux d'investir dans l'environnement. On a l'impression qu'en fait, les politiques et ceux qui gèrent le pays, ou même les autres, les grandes boîtes et tout, ils ne comprennent pas l'enjeu de l'eau et l'enjeu de préserver la biodiversité, la nature. On dirait que ça leur passe complètement à travers. Et c'est vrai que ça, des fois, quand on voit que nous, on a du mal dans les associations à joindre les deux bouts ou quoi, et qu'à côté de ça, il y a des millions qui sont claqués pour construire des stades de foot ou je sais pas quoi, on se dit, mais quand vous vous rendez pas compte de... On peut leur expliquer, nous, on est ouverts, hein. Moi, combien de fois j'ai expliqué à des pêcheurs qui me demandaient « Mais pourquoi vous supprimez des anciens barrages avec la Fédération de pêche? Pourquoi vous les arasez ?» On leur explique et ils sont ouverts, ils comprennent. Et au contraire, ils sont contents qu'on leur explique et du résultat qu'il y a derrière. Après, c'est prouvé scientifiquement que quand on arase des barrages, il n'y a qu'à voir. Avant, on ne faisait pas d'anguilles à l'amont des barrages où il n'y avait pas de truitelles. On fait des pêches électriques 2 ans après l'arasement et il y en a absolument partout.
Des anguilles?
Ouais. Et des truitelles aussi.
Évidemment, le constat fait par cette jeune femme est très dur et pourrait être déprimant s'il ne finissait pas quand même par une des rares fois où l'on entend parler de résultats. C'est quand même assez enthousiasmant, même si elle dit aussi que ces résultats sont ignorés notamment des pouvoirs publics, elle parle quand même de résultats, et de résultats même rapides. Est-ce que c'est une responsabilité pour vous, dans ce film-là, mais même dans votre travail, de montrer aussi l'importance et la réalité des résultats quand ces gestes sont faits?
Absolument. Il y a des réversibilités qui sont possibles et il faut le dire et le montrer, parce qu'il faut faire les choses avant que ce soit trop tard. Parce que quand c'est trop tard, voilà, là, ça devient précisément, c'est irréversible. Il y a deux temporalités, quoi. Il y a celle du réchauffement climatique et il y a celle de l'effondrement de la biodiversité. Ce sont des phénomènes, en fait, donc, qu'il faut recoupler. Aujourd'hui, ils ont été beaucoup trop découplés par les pouvoirs publics et par les médias et par les grosses entreprises. Mais en fait, ils sont très liés. D'ailleurs, le réchauffement climatique est un effet de la pollution, hein, de même que l'effondrement de la biodiversité. On pourrait tout ramener, finalement, à la problématique de la pollution. Néanmoins, on a une marge de manœuvre. D'où l'enjeu, par exemple, dans ce film, des barrages. Des barrages, on a plein de grands barrages en France, de la grosse hydroélectricité. Elle compte pour une part importante dans la production électrique du pays. Personne ne parle de revenir sur cette hydroélectricité-là. On parle d'une petite et moyenne hydroélectricité. Et en fait, aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte. On est en plein dedans. Au nom de la transition énergétique, on construit des microcentrales sur des tout petits cours d'eau de montagne. Ils ont une production électrique assez faible et un effet sur la biodiversité qui est très important. Puisque précisément ces petits cours d'eau, et ça c'est expliqué à d'autres endroits du film, ce sont des endroits où le vivant aussi se cache et pour se reproduire, les truites, etc. Pour des raisons naturelles, c'est-à-dire que dans les grands cours d'eau, il y a des grandes crues, et les grandes crues sont très destructrices pour les poissons. Donc, en fait, quand les crues arrivent, ils se cachent et ils remontent dans les affluents, dans ce qu'on appelle le chevelu. Là, on parle des barrages, de l'effet des barrages sur le vivant, sur les animaux, les poissons, qui ont besoin de circuler. Donc, les barrages fragmentent leurs habitats. Mais, en fait, la rivière du film, elle est connectée à la montagne du film de Thomas. Et les phénomènes de réchauffement qui font que la montagne se démonte, se disloque, ça se répercute dans les rivières. Les rivières charrient des cailloux, des gros cailloux en amont, et puis des sables et des argiles et à l'aval, et des galets entrent. Et les barrages retiennent aussi toute cette matière sédimentaire, la bloquent. Or, elle est nécessaire à la reconstitution permanente du lit des rivières. Je trouve que c'est intéressant, quoi, de voir comment la montagne et la rivière, sous certains angles, sous certaines problématiques, apparaissent comme un même objet, en fait. Et ça, c'est ça, en fait, le grand intérêt de l'écologie comme discipline. C'est de reconnecter, c'est de mettre en relation des entités qu'on avait l'habitude de traiter séparément.
C'est dans une interview que vous donnez au Cahier du Cinéma, quelque chose que vous mettez dans l'idée du regard. C'est-à-dire que vous parlez de la rivière, on peut regarder une rivière et voir de l'eau qui coule, mais on peut aussi étendre son regard à la question déjà de où commence et où finit cette rivière, dans une source, dans les nuages, dans la mer. L'eau, c'est tout un cycle, ça n'est pas juste cette eau qui coule. Et effectivement, on peut, après ce cycle de l'eau, le relier lui-même au cycle de la montagne. Donc tout ça devient finalement une question de regard, donc de cinéma.
Il y a quelque chose qui est très important, je pense, c'est la question de la pluridisciplinarité ou du perspectivisme, peu importe la façon dont on appelle ça. En tout cas, c'est de mettre en relation. Je crois que la question de la mise en relation, elle est extrêmement importante, en fait, dans mon écriture. J'aurais du mal à ne faire une film que sur un seul objet, où je prendrais un objet aussi petit soit-il, que je finirais par à la fois le diviser et le reconnecter avec des choses éloignées. Ça, c'est c'est le mouvement que l'écologie nous amène à faire en permanence. Il y a une citation d'un architecte urbaniste, comme par hasard, que j'aime beaucoup, qui est Lucien Kroll, et qui disait « Sans la complexité, rien n'est simple ». Je trouve que l'écologie, elle est prise dans ce double mouvement, à la fois de tendre à une certaine simplicité et cohérence, et on revient, et en même temps d'être dans un, à la fois une acceptation, mais aussi un goût, un appétit de la complexité et d'être sans arrêt surpris par les savoirs et les points de vue et les compétences et les expériences des autres. Et quand je dis alors là, les autres humains, mais alors aussi les autres êtres vivants et voir même comment ça marche, une montagne, comment ça marche, le minéral, tout ça c'est...
Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire de regard, et puis aussi quand on parle effectivement d'architecture urbaniste, quand on parle du menuisier tout à l'heure, quand on parle évidemment dans Nul homme n'est une île de cette association les poules heureuses, Galline et Felici, on parle là d'un projet de société finalement. Dans quelle mesure il est possible de recréer des imaginaires qui nous manquent tellement, en fait, des utopies qui nous manquent tellement?
Ce que les films ont comme effet sur leur propre vie, c'est que ça leur permet de se voir et de se voir parmi d'autres. Donc, de se mettre en perspective. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est important. Ça produit quelque chose en plus. C'est-à-dire que ça permet de se voir sur la carte, en quelque sorte. Et le projet de Nul homme n'est une île, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que je mettais dans le même film des groupes qui étaient distants géographiquement, qui ne se connaissaient pas, qui ne faisaient rien ensemble, en Autriche, en Suisse, au Vorarlberg, non seulement éloignés dans l'espace, mais aussi éloignés dans le temps, puisque je mettais aussi en perspective notre époque avec le Moyen-Âge. Or, lorsque j'ai présenté le projet du film aux uns et aux autres, Marcus Feist, dont on parlait tout à l'heure, précisément, qui est un personnage assez provocateur, m'a dit « J'ai souvent été filmé, j'en ai marre ». Du mythe du Vorarlberg. Donc là, c'était bien qu'il y avait bien... Il y a déjà un récit, mais qui était un récit qui était porté par des magazines un peu chics d'architecture écologique, de design écologique, etc. Et lui, il en avait assez, en fait, d'être pris dans ce récit-là. Dans le même moment, les gens de Galline et Felici en Sicile me disent « Nous, on n'aime pas Slow Food, on ne veut pas être pris dans le récit de la production bio pour les bobos, ça ne nous intéresse pas. » Donc en fait, les deux étaient en train de dire qu'ils veulent changer de récit, qu'ils se reconnaissent pas, qu'ils ne reconnaissent pas leur engagement écologique, social, politique dans ces récits-là du bon goût écologique. Mais dans quel récit ils veulent être pris, ils ne le savent pas encore. Et moi, la seule chose que je leur propose, c'est de dire « T'inquiète, je ne vais pas faire un film sur toi. Toi tout seul, tu ne m'intéresses pas. Je vais faire un film sur toi et les Galline Felici et l'architecte en Suisse et la fresque du bon gouvernement au Moyen-Âge. » Et là, je le vois qui commence à... un mouvement de recul, il y a quelque chose qui s'allume dans son œil et qui me dit « Parle-moi un peu plus de tes gars en Sicile, et c'est quoi cette fresque du bon gouvernement ? Je ne la connais pas. » Et là, c'est, au bout de 5 minutes, ça a été top. Là, il avait envie d'être dans ce film parce qu'il était à la recherche d'un autre récit et d'être inclus
c'est ça, dans c'est un autre... Question, voilà. C'est aussi la question du collectif.
D'être inclus c'est dans un autre collectif.
Exactement. Ça demande, qui est très belle pour le coup, de vouloir faire partie d'un tout.
En tout cas, de vouloir faire partie d'un collectif, donc d'un réseau. Donc, il y avait l'idée comme ça de... C'est à la fois un film sur le local, Nul homme, mais d'un local au réseau, d'un local ouvert, d'un local traçant. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement déjà dans leur tête à eux. Aussi bien Marcus Feist, menuisier ébéniste au Vorarlberg, que les gens des Galline et Felici, producteurs d'agrumes en Sicile. Ils savent qu'ils ont besoin de tendre, de s'étendre, d'aller vers, mais ils ne savent pas exactement où ça va les mener et qui ils vont rencontrer. Donc, en fait, le projet du film, il était déjà dans la tête de ses protagonistes avant même que le film arrive. Et c'est pour ça qu'ils y ont participé et que ça marche.
Et dans cette question des récits, Thomas, vos récits ne sont pas directement réalistes, ils sont au contraire dans le fantastique et qui amènent justement différemment, mais aussi au mot que prononçait Dominique, du mythe. Est-ce que vous pensez que les mythes, au sens d'une fiction qui peut à la fois bouleverser, mais qui peut aussi devenir une forme d'exemple, en tout cas de référence, est-ce que c'est par cet angle-là que vous pensez que vos récits sont les plus forts ?
Je ne suis pas quelqu'un du discours, même si j'aime bien parler dans la vie. Et dans mes films, dans mes courts-métrages, il y a pas de dialogue, quasiment pas, et dans mes longs-métrages, il y en a très peu aussi. Parce que j'ai cette croyance, voilà, que beaucoup de choses passent par la sensation. Et peut-être qu'il y a une forme, je réfléchis à voix haute, mais je n'y avais pas pensé, mais pourquoi je fais autant des films qui passent par la sensation, et d'ailleurs pourquoi, pour mon dernier film, la presse a parlé surtout de ça, et tous les témoignages de spectateurs que j'ai eus, des gens qui me disaient, ah, on ne sait pas pourquoi, mais on a ressenti quelque chose, et c'est peut-être parce que je sens que là, il y a un espace, parce qu'il y a beaucoup de discours, il y a des livres, il y a des récits, il y a des philosophes qui parlent de tout ça. Et moi, peut-être, je viens m'insérer dans... Ou je viens apporter ces récits, mais en m'adressant presque à la matière, enfin à la chair, quoi. C'est-à-dire que plein de gens m'ont dit avec la montagne, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai adoré. et j'adore, quoi. Et on me l'a dit plein de fois. Et ça, je trouve ça super, parce que je pense que, par la manière que j'ai de faire, donc... le travail sur le son, sur le temps, sur l'espace, et puis peut-être aussi le fantastique qui permet une mise à distance, c'est vraiment des outils qui permettent de ressentir une expérience. Et donc, c'est vraiment la question du général, d'universel et du particulier. Moi, vraiment, quand j'écris, je pense à mon personnage, aux outils qu'il va utiliser, à quel type de rocher il va traverser, comment on va faire. Donc, j'ai un rapport très, très concret même dès l'écriture, parce que je suis sûr qu'en faisant de cette manière, je vais toucher quelque chose, moi, qui me questionne, mais qui m'échappe, de plus universel. Et d'ailleurs, ce que j'ai adoré, c'est que dans tous les débats que j'ai fait avec la montagne, les gens étaient sûrs que j'étais un adepte de telle religion, que j'étais un expert de telle mythologie, de tel philosophe, vous connaissez ce travail, vous êtes... Alors que ce soit les catholiques, des juifs, des francs-maçons qui sont venus me parler un peu à la fin du projet en disant « vous êtes initiés ». Et les gens se sont... On va parler aussi de mythes mexicains, d'Afrique de l'Est. Enfin, c'était assez passionnant. Et je pense que... on parle beaucoup de douceur aussi à propos de mes films. Voilà, et sans discours et sans dogmatisme, on voit au final, on vit une expérience avec un personnage. J'en fais pas un héros, mais ce mec, à la fin, il redescend, parce que je rejoins aussi quelque chose du collectif, c'est-à-dire que... je fais une petite parenthèse de ce que disait Dominique, c'est-à-dire qu'on peut dire que je fais des films sur des mecs seuls qui vivent leur expérience, mais moi, à la montagne, on m'a reproché que le film ne se termine pas au moment où le personnage redevient matière au cœur de la montagne. Mais moi, j'ai dit, il est hors de question, c'est ma responsabilité de cinéaste. Aujourd'hui, il est hors de question de faire un film qui raconte que pour se trouver... Pour trouver sa lumière, il faille renoncer à vivre parmi les hommes. Le monde est ce qu'il est, dans sa laideur et sa beauté. Mais moi, dès le début de l'écriture, parce que je fonctionne par image, j'avais cette image du mec qui redescend vivre avec les hommes. Et il était hors de question que ce soit autrement. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure dans Vincent, c'est la question de comment vivre avec les hommes, en fait, en étant riche de ce qu'on est, pauvre de ce qu'on est aussi, et qui a tout à inventer. C'est-à-dire que Vincent, comment il va inventer une histoire d'amitié, une histoire d'amour, il se trouve cette place sociale dans ce monde tel qu'il est, avec l'eau polluée, alors que lui, il a besoin de l'eau. Enfin, donc, le collectif, il est aussi frissonnant. Enfin, c'est la question de l'autre, en tout cas, pour moi, c'était très important dans le film.
Ce qui est intéressant, justement, aussi dans le fait que le film se termine par un retour aux hommes, dans la société en tout cas, c'est que ce n'est évidemment pas du tout un refus de la société, plutôt une envie de la repenser. Mais justement, comment faire cohabiter aujourd'hui cette pensée écologique qui peut parfois être taxée de réac ? Il y a une vraie inversion quelque part de rhétorique, de vocabulaire, de valeur. Dans quelle mesure une pensée écologique peut être considérée comme progressiste ou en tout cas tournée vers l'avant et ne pas se prendre ce mur.
Là, je crois qu'on est très vraiment dans un cas où on est complètement piégé par les mots. Le mot progrès est peut-être le plus problématique de tous. Je le fais pour moi-même et j'inviterai plus de gens à le faire. C'est de mettre ces mots dont on ne sait plus trop que faire, de les mettre de côté et d'essayer de travailler avec d'autres mots. Et on va voir si ça nous permet de sortir de certaines apories et d'aller un peu plus loin. Donc moi, je préfère poser les questions en termes de connaissances plutôt qu'avec ce vocabulaire politique qui se balade, en fait, qui est un peu trop mobile, quoi. Qu'on retrouve tantôt dans le champ du politique, puis dans le champ des sciences du vivant. Je me souviens avoir eu une conversation de cet ordre-là à propos d'un texte de Daldo Leopold, écrivain, forestier et grand penseur de l'écologie américain, qui a commencé dans les années 20-30. Un texte qui s'appelle « Round River ». Je le dis en anglais parce que je n'aime pas la traduction française. On le traduit par « rivière ronde ». Or, je pense qu'il faudrait plutôt l'entendre comme « rivière circulaire » ou « rivière en boucle ». C'est un texte assez court. À part le problème du titre, on peut le trouver chez White Project et ça vaut le coup de le lire. Ce qui peut heurter, c'est précisément l'insistance qui est mise chez ces grands penseurs de l'écologie sur l'idée de circularité. Et cette circularité, elle crée des crispations chez certains et chez certains progressistes. La circularité est assez facilement dévalorisée ou elle est politiquement entachée. Comme si l'idée progressiste, la linéarité du progrès était ce qu'il fallait continuer à défendre. Et que l'écologie, effectivement, elle travaille, elle questionne, elle perturbe cette épistémée dans laquelle on est pris depuis 4-5 siècles.
Dès lors qu'on se soucie de l'avenir du vivant sous toutes ses formes, et puis si on veut être égoïste de l'avenir de l'homme, je vois pas en quoi ça pourrait ne pas être progressiste, en fait. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que quand on parle de leucémie infantile, quand on parle des maladies du travail, de mortalité, et qu'on nous envoie, oui, mais c'est une tradition, oui, mais les emplois, oui, mais qu'on est incapable de penser la souffrance, en fait, et le malheur qui s'ajoute au malheur, et puis surtout quand on regarde un peu la science, enfin, et qu'on se dit, voilà, peut-être que les pics de chaleur à 51 degrés dans 20 ans à Paris, voilà, il est où le progrès, en fait? Donc je pense que, moi, c'est tout à fait progressiste de se poser ces questions, et progresser presque au sens, comme on dit, on progresse sur un glacier, on progresse la progression, ouais, d'un animal, comme le serpentement, le vol, voilà, ne serait-ce que d'évoluer encore, mais au sens de... sens de progresser et de se déplacer.
Peut-être que faire vos films, c'est aussi une réponse à ce qui est dit aussi dans Nul homme n'est une île, à nouveau, je crois, par cet urbaniste dans le village suisse-allemand, que l'intérêt n'est finalement pas tellement de dire aux gens quoi faire, mais peut-être plutôt de réfléchir à une façon de leur demander quel est votre rêve finalement, quel village voudriez-vous, quelle montagne voudriez-vous ? Et finalement, commencer à écouter ces réponses. Et peut-être que faire des films, c'est effectivement pas forcément formuler, être dans le discours, mais c'est peut-être une assez belle façon, justement, aussi de montrer ces bulles de futur et de ce qu'on aimerait.
Oui, il inverse ses priorités. Il dit d'abord le lieu, quoi. Ein Jahr für ein Ort. Il faut d'abord choisir le lieu, et après, on voit ce qu'on peut y faire.
Moi, je pense qu'effectivement, l'important... C'est non pas d'apporter des réponses, bien sûr, mais c'est ne serait-ce que de montrer qu'on peut se poser ces questions. Et moi, c'est pour ça que j'espère ne pas du tout être moralisateur, parce que, OK, il y a un modèle économique qui prévaut, qui semble, voilà, dans le sens du progrès, c'est l'avenir, plus gros, plus fort, on va plus haut dans l'espace, on y reste plus de temps. Enfin, voilà, tout fonctionne comme ça, les capteurs des caméras, 8K, 12K, 24K, enfin, on va dans ce sens, OK, très bien. Peut-être qu'il y a des progrès techniques, scientifiques qui ont une valeur, qui peuvent apporter des choses à l'homme et au vivant. Mais ce qui manque dans nos systèmes éducatifs, politiques, c'est tout simplement d'apprendre à se poser la question du besoin et de la nécessité. Moi, c'est juste ça. Moi, je me dis, si on sort du bac en ayant appris que dans certains cas, oui, il y a un truc que tout le monde aime, moi, je l'aime aussi, mais parce que j'aime vraiment, mais dans certains cas, tout le monde l'aime, mais est-ce que j'aime vraiment ce film? Est-ce que j'aime cette musique? Est-ce que j'aime cette fringue? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de devenir? Est-ce que gagner 58 000 euros par mois, c'est vraiment mieux que 40? Mais déjà, est-ce que 40, c'est vraiment mieux que 8? Et c'est juste... Moi, peut-être, je fais des films dans lesquels les personnages essaient d'être plus justes de ce qu'ils éprouvent être leur rapport au monde et aux autres, quoi. Et je pense qu'on est très souvent dans le constat et dans la prescription, mais il manque un peu ce moment de que chacun se re-questionne, mais de manière la plus simple possible. Mais philosophiquement, voilà, moi, j'essaie de travailler cet endroit où on se dit, ah, mais OK, je vais juste prendre le temps, les 8 secondes qu'il me faut, pour voir est-ce que cette chose, je l'aime vraiment ou est-ce que j'en ai vraiment besoin.
Alors, pour finir, Thomas, Dominique, bon, bah, comme dans tous les récits, le spectateur, évidemment, c'est la question fondamentale. Est-ce que vous croyez que vous travaillez pour que vos récits soient abordables au plus grand nombre? Est-ce que vous cherchez à le rendre accessible pour que cette dimension se transmette au plus grand nombre? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur à votre pensée?
Ah non, moi, c'est pas du tout extérieur. Mais en fait, je ne me pose pas non plus la question dans ces termes-là. En fait, c'est l'élégance élémentaire, en fait. On essaie de raconter l'histoire de la meilleure façon possible. Donc, bien raconter une histoire, c'est pour que un enfant, une personne âgée, en fait, une bonne histoire, tout le monde peut la comprendre.
Et moi, je pense que même un film expérimental ou un film hyper pointu, les plus beaux portent en eux cette envie d'aller rencontrer quelqu'un. Donc moi, si je passe autant de temps et d'énergie, et je me mets même en danger physiquement à faire ces films, c'est vraiment pour que ça aille bien au-delà de moi. Donc ça, voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Dominique Marchais et Thomas Salvador, longue vie à vos films La Rivière et la Montagne, et longue vie aux rivières et aux montagnes. Ce podcast, sur une idée de Marine Brun-Franzetti, a été présenté par Antoine Barraud et Jonathan Choupac. Prise de son, Romain Prouveur. Montage son et mixage, Romain Prouveur. Thème musical, Didier Dabréau. Merci aux Ondes Mécaniques pour l'équipement son, à Timto pour le local d'enregistrement. Merci au groupe de travail écologie et cinéma de la SRF, notamment à Ralil Cherti et Axel Repère, à l'équipe permanente de la SRF et à ses coprésidents et coprésidentes. Rendez-vous pour le prochain épisode de l'écologie et la pratique du cinéma. Merci.